une dimension scientifique et une dimension qu'on peut dire religieuse si l'on veut, mais je dirais une dimension de croyance, une dimension de conviction. Dans son vocabulaire à lui, on dirait une dimension idéologique. Après tout, quand mon maître Althusser opposait science et idéologie, il fallait bien conclure que d'une certaine façon, ce qu'on appelait le marxisme, la révolution, le communisme, c'était un peu les deux. C'est à la fois une analyse scientifique tout à fait argumentée et précise des structures du capitalisme d'un côté, et de l'autre part, c'est une croyance ou une conviction concernant l'émancipation. Et moi, je dirais, je tiens au fond à cette ambiguïté. Par hypothèse communiste, je désigne le maintien, si je puis dire, de cette ambiguïté. Beaucoup de positivistes ont dit, oui, il y a une part scientifique dans le marxisme, mais elle est complètement contaminée par, finalement, un messianisme qui ressemble beaucoup à de la religion. Et puis, de l'autre côté, on a dit, oui, le communisme, c'est intéressant comme conviction, comme idéologie, comme moteur subjectif, mais la partie scientifique, c'est un peu positiviste, finalement, un peu déterministe, on nous fait croire que l'histoire va nous y faire arriver par elle-même. Et moi, je dis, au fond, c'est ni l'un ni l'autre, c'est effectivement une synthèse tout à fait singulière, qui a ses origines dans la Révolution française elle-même, où on trouve ce double aspect aussi, hein, la référence à l'encyclopédie, aux sciences, etc. Et puis d'autre part, la foi dans la vertu, comme disaient les révolutionnaires de 89. Je tiens à cette ambiguïté. Et le mot hypothèse, pour moi, désigne les deux à la fois. Et il dit, premièrement, il n'est pas vrai qu'il faille abandonner l'ensemble des acquis de l'analyse scientifique de ce qu'est le capitalisme par le marxisme rigoureux. C'est tout à fait important. Ça indique tout de même un certain nombre de choses qui demeurent. Et non seulement elles demeurent, mais elles sont plus vraies aujourd'hui qu'elles ne l'étaient du temps de Marx. Si vous prenez par exemple l'expression « marché mondial », qui est fondamentale chez Marx, aujourd'hui on sait ce que c'est le marché mondial. Oui. On le sait beaucoup mieux que vers 1848. Hein. Donc il ne faut pas abandonner ça, mais il ne faut pas pour autant réduire le marxisme à une sorte de science objective, à en faire au fond une des tendances possibles de l'économie politique. Il faut aussi en garder la dimension volontariste, subjective, idéologique, à savoir la conviction qu'un autre monde est possible.
Est-ce que vous avez des exemples de ce communisme qui ressemblerait à l'hypothèse que vous faites aujourd'hui ?
Écoutez, je crois que si on regarde de près les expériences révolutionnaires connues depuis la Révolution française jusqu'à nos jours, dans quasiment toutes les tentatives, on peut trouver des éléments qui ressemblent, du point de vue de leur orientation, de leur représentation, de ce qui est tenté, à ce que à ce qu'on peut appeler l'hypothèse communiste. J'ai même autrefois écrit un livre, un petit livre, dans lequel je parlais de ce que j'appelais les invariants communistes. Les invariants communistes, c'était ce qui, dans toute levée populaire un peu massive, dans toute séquence révolutionnaire véritable, dans tout épisode historique qui est une véritable rupture, réapparaît constamment. Alors, on a manifestement, de façon tout à fait principale, ce qu'on pourrait appeler la volonté égalitaire. C'est quand même elle qui se ressignale à chaque fois qu'il y a des épisodes de ce genre. Il y a l'idée que peut-être on pourrait s'organiser, s'auto-organiser, sans qu'il y ait nécessairement des gens en haut et des gens en bas, sans qu'il y ait nécessairement une police séparée et oppressive. Et c'est ce qui donne des tentatives bien connues, comme les comités de village, les milices populaires, etc., etc. Et puis, il y a donc tous ces phénomènes-là. Et puis, il y a l'idée que si on éduque tout le monde, c'est-à-dire que si on installe tout le monde dans une subjectivité à la fois égalitaire et instruite, les deux simultanément, on va procéder à un changement progressif de la situation, parce que on va, en réalité, lutter contre la division du travail. Or ça, je pense que c'est un point clé, à peu près oublié, mais fondamental. Le communisme, ça a quand même comme aspect peut-être principal de mettre fin à la division du travail. C'est-à-dire de mettre fin à ce qui demeure tout de même un scandale, enfin pour moi, un scandale quotidien, qui est que non seulement celui qui est astreint à creuser des trous dans le trottoir est astreint à un travail infiniment dur, pénible, méprisé et invisible, on ne fait pas attention à lui, on ne le voit pas, mais en plus, c'est lui qui gagne le moins. Hein. Donc, celui qui fait le travail le plus ingrat, le plus invisible et le plus méprisé est en plus celui qui doit être le plus pauvre. Ça, c'est quand même quelque chose dont personne ne peut accepter que ça soit le destin général de l'humanité. Et